justement pour pratiquer ses élèves donc régulièrement. Je dirais que je voudrais un peu corroborer ce qui a été dit sur les capacités à user des registres de langage. Alors nous, on le remarque en lycée professionnel, lorsque les élèves font leur période de formation en entreprise, donc on a des comportements, ça va au-delà du langage, c'est le comportement qui se modifie complètement.
Ouais.
Alors c'est vrai, c'est très très majoritaire dans leur comportement, il y a très très peu d'élèves qui ne font pas l'affaire quand ils font des stages en entreprise. Et ces élèves-là qui ratent leur stage, en fait, ces élèves qui ont fait des erreurs d'orientation. Et la plupart, donc, ont des comportements... bon, maintenant, on n'est plus tellement étonné parce que c'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Donc, les professeurs savent très bien que c'est un indice de motivation par rapport à leur formation. Et on sait très bien aussi, les enseignants et l'ensemble des personnes qui interviennent à l'institut professionnel, on sait très bien que ces élèves-là ont des registres de langage divers, qu'ils amusent de façon différente. Et la question que je me pose un petit peu, c'est que quelles sont les raisons, finalement. Bon, il y a des pistes, on a réfléchi là-dessus déjà, mais je voudrais avoir votre avis. Quelles sont les raisons qui font que ce comportement, donc ces registres de langage utilisés en période de stage à l'entreprise, ne se retrouvent pas dans l'école lorsqu'ils reviennent au lycée?
Bah oui, bah j'ai bien fini par un point d'interrogation, parce que c'est exactement le même type de situation. Puis je l'ai observé aussi, les variations de comportement, y compris l'engagé, mais effectivement pas seulement l'engagé, entre les périodes de stage et en classe sont parfois vraiment saisissantes. Hein, et le retour après un stage long parfois... c'est le retour à la case départ. Enfin, on a l'impression de ça, mais c'est peut-être. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que les élèves n'actualisent pas, ne rentrent pas dans le jeu, hein, dans les règles du jeu de l'école. C'est une question qui dépasse mes compétences. Bien aussi quelques hypothèses, mais.
Oui, je me posais la question si c'était pas quand même comme quelque chose qui se prend au collège. Si les enfants dans le premier cycle ont un langage un peu commun, et on s'aperçoit en arrivant au collège que tout d'un coup il y a un accent qui se prend, une tonalité, oui, des mots qui se mettent, et que c'est à ce moment-là. Donc il y a eu une acquisition avant, oui, du langage commun,
oui,
et qui va après ça se paraître ne plus exister alors qu'il était là et qu'ils savent très bien jouer sur les, ouais, deux registres ou sur plusieurs registres.
Oui, alors enfin là il y a quand même un élément de réponse lié à ce qu'on sait sur la socialisation langagière à l'adolescence.
Voilà, c'est donc je pense qu'il y a vraiment, ouais, tout ça.
Mais là on est focalisé comme bien souvent sur ceux qui actualisent ce type de style. Mais chez les 6, certaines avaient le même style au collège et l'ont laissé à la porte du lycée. Et les autres prolongent. Alors, pour des raisons multiples, enfin, je pense qu'il y a tellement de facteurs en jeu. Parce que si on compare d'un point de vue sociologique, hein, les deux groupes, 6 et 13, on a vraiment des similitudes très grandes dans donc CSP, nombre de redoublements, les trajectoires scolaires sont très semblables, lieu de résidence, donc les adolescentes du groupe des 6 et du groupe des 13 vivent dans les mêmes types de lieux de résidence urbains, souvent des quartiers pauvres. Alors par contre, elles n'ont pas du tout la même attitude face à ce milieu dans lequel elles vivent. Elles n'ont pas non plus la même attitude par rapport à leur plurilinguisme, puisque j'ai bien dit que dans les deux groupes, hein, y a des pratiques plurilingues. Les 6 étant manifestement, voilà, je peux dire que ça en fait, hein, les 6 étant manifestement dans une trajectoire d'assimilation linguistique, culturelle, et qui comprend le fait de jouer le jeu de l'école, les 13 étant manifestement dans un autre type d'attitude vis-à-vis au seul modèle d'intégration qu'on leur propose. Voilà. Parce que, bon, chez les 6, cette trajectoire d'assimilation, cette attitude, cette posture qui joue le jeu de l'intégration scolaire, ça va pas sans douleur, hein, ça va pas sans... parce que une fois, enfin, alors mettre en œuvre ce type d'activité, c'est sûr que c'est aussi permettre, donner un espace à des dimensions de soi qui jusque-là souvent n'ont pas eu de place à l'école. Donc, enfin. Voilà, c'est pour ça que ce matin, moi, je vais dans le sens de ce que disait Josiane Boustet, dans le a minima, enfin la reconnaissance a minima, et le plus tôt possible. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une non reconnaissance qui est le seul facteur explicatif des difficultés, oui, non, sans doute pas, et même des comportements. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de réponse, mais l'adolescence, c'est sûr, est une donnée à prendre bien sûr en compte. Puisqu'on peut effectivement envisager que les 13 sont davantage dans cette phase encore, puisqu'elles se projettent moins dans l'avenir, et c'est pour ça aussi qu'elles jouent moins le jeu de l'école, et ben voilà. Donc elles sont plus dans l'adolescence.
Sur l'impact d'un discours, je crois que c'est vrai qu'on peut convoquer plusieurs choses. On peut convoquer... À la fois dans ce que tu dis, c'est il y a pas de sociologie d'écart. Et là, on va aller voir du côté de ce que dit Lahir sur est-ce qu'il y a des micro-choses dans les histoires familiales de ces gamins-là qui font que, pour des sociologies apparemment identiques, se construit dans la famille un rapport à l'institution scolaire ou au savoir, etc., ou à l'écrire, enfin, etc., un peu différent. Première idée à convoquer, possiblement. Deuxième idée à convoquer, enfin, deuxième ressource de recherche, peut-être, enfin, en tout cas, ce que ça me fait, moi. La question de la préservation de l'estime de soi dans ces groupes qui se vivent à l'intérieur de l'espace scolaire comme des vaincus et des soumis, et donc des rebelles à la soumission. Et là, donc la psychologie sociale éventuellement, mais aussi toujours sur l'incompréhension ou l'écart entre ce qu'on essaye de faire à l'école du côté de la norme scolaire référée à la normativité ressentie par ces enfants-là comme... une injonction à la soumission, c'est-à-dire si tu passes sous les fourches codines, alors si tu bon, donc c'est évident que, enfin c'est évident, pardon. Pour moi, il me semble qu'il y a à chercher du côté de cet écart entre normes et normativité scolaire que les sociologues nous renvoient. Mais dernière chose, moi, ce que tu dis là de cette magnifique expérience, enfin témoignage, ça me renvoie exactement à ce que Cherbourg nous raconte hier matin, c'est-à-dire que hier matin, ils nous disent, on a des gamins qui savent pas parler et pas écrire. On se dit, collectivement dans le réseau, l'école doit fournir des occasions de montrer qu'on croit dans leur pouvoir écrire. Là, si je te renvoie ce que je ressens de ce que tu montres, c'est, moi en tant que pédago, c'est, eh bien oui, à partir du moment où l'école... ressemble à ce qu'ils rencontrent dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire une activité sociale avec un sens, un but et une norme, eh bien, à ce moment-là, pour peu qu'on arrive à les convaincre qu'ils en sont capables, ce qui n'est pas gagné, c'est-à-dire que parfois, et sur la production d'écrit, on peut le voir, il y a des gamins qui vont dire « je suis pas capable », comme nous-mêmes avec Pythagore, on peut se juger non capable. Et effectivement, la situation là, Et alors, c'est toujours la même question qui a résonné ce matin. On la ressent différemment, mais c'est, est-ce qu'il se passe quelque chose de différent parce que on leur permet d'installer une situation où, ben, voilà, l'interview, ou est-ce que c'est simplement la reconnaissance de leur plurilinguisme qui, tu vois, c'est aussi dans votre point de référence, là, où il y a quelque chose. Pour moi, c'est la situation scolaire qu'on leur permet. C'est un interview sur le marché, ça pourrait être un journal scolaire à faire, ça pourrait être une enquête, ça pourrait être quelque chose.
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, sauf que je pense que le thème de l'enquête n'est pas étranger à l'implication de certains, ah, j'en suis même persuadée, hein, de certains élèves dans les activités. Je pense que ça fait sens parce que ça a enfin une place. Alors ça a une place, vous voyez, très détournée. C'est pas du tout une reconnaissance frontale. On ouvre un espace qui laisse la possibilité de. Enfin, on ouvre un espace d'accueil, de reconnaissance, c'est tout. C'est pas du tout parce que travailler sur le plurilinguisme pour des monolingues, c'est peut-être encore plus intéressant. Je veux dire, ils vont apprendre plus de choses. Donc, ce thème, il n'est pas limité. Mais, pour certains élèves, je suis sûre que le thème a quelque chose à voir avec l'entrée dans l'activité. Ben oui, mais c'est un thème tabou à l'école, souvent, le plurilinguisme et la diversité linguistique.
Justement, moi, je voulais savoir,
oui.
Comment, qui et comment, en fait, je trouve que c'est ça qui est très fort dans cette histoire, c'est l'idée d'enquêter là-dessus, sur le marché, d'à côté, quoi. Et comment vous avez décidé ça, qui et comment étaient impliqués les enseignants sur cet aspect-là du travail?
Alors, c'est une activité qu'on a co-élaborée avec l'enseignant de français. L'interview est un des types d'activités suggérées dans les textes. Hein. Donc, on est tombé d'accord. Moi, je voyais bien donc le type d'activité qui permettait. À la fois, alors, de repartir aussi de réflexions sur l'oral et l'écrit, qui permettait de sortir du lycée, parce que, oui. Enfin, on avait misé sur, à partir d'une réflexion de l'enseignant, hein, qui disait, mais je comprends pas pourquoi ils sont enfermés dans ce comportement-là, puisque un jour on est sorti à la bibliothèque, ça s'est très bien passé. Et donc on s'est dit bon bah creusons un petit peu cette piste, essayons d'intégrer à une activité scolaire une sortie. Mais donc tout ne s'est pas déroulé à l'extérieur, mais jusqu'à la rédaction du compte rendu journalistique, certains élèves sont restés impliqués dans les tâches qu'on leur proposait, alors que d'habitude ils ne l'étaient pas. Alors, pour être tout à fait honnête, il faut que je dise aussi que certaines élèves du groupe des 6 ont à ce moment-là eu l'impression que on sortait des thèmes. Oui, parce que le thème n'était pas un thème classique. Mais bon, est-ce qu'il faut en déduire que il faut pas travailler sur le plurilinguisme, ou est-ce qu'il faut en déduire que c'est parce que ça n'est pas travaillé que c'est considéré comme n'étant pas du travail scolaire? Parce que c'était ben pour moi, c'était du travail scolaire. Bien sûr, ça manque. Mais ça, c'est sûr que c'est compliqué, délicat. Mais je crois que c'est pas à elle de trouver les réponses. C'est à nous, quoi, d'essayer de trouver. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire. Enfin, que c'est vraiment et que c'est d'autant moins compliqué que c'est intégré dès le début de la scolarité. Je veux dire, si cette reconnaissance arrive au début, je pense qu'il y a moins besoin de faire du rattrapage par la suite.
Et je voulais savoir, est-ce qu'une des explications possibles au fait qu'elle se soit impliquée en dehors de l'école, est-ce que pour ces élèves en éducation prioritaire, justement, ça permettait de sortir de la difficulté de l'abstraction? Parce que quand on travaille sur une notion en classe, ça reste dans l'abstrait. Là, la tâche prenait prenait corps à l'extérieur, et c'est peut-être pour ça aussi. D'ailleurs, vous parliez du mot Zarma, le mot Zarma a un poids dans parce que souvent quand on discute avec les élèves, le Zarma, ça veut dire genre, ça veut dire ah oui, genre. C'est comme si c'est dans le virtuel, c'est pas réalisé. Dès que quelqu'un dit quelque chose, voilà, ouais. Zarma, ça ramène à cette abstraction qui non, mais vas-y, tu parles d'un truc qui n'existe pas, Zarma.
Tu rigoles.
C'est quelque part un point mis sur cette abstraction là. Et là, le fait qu'elle puisse matérialiser la tâche en situation qui en dehors justement des contraintes de l'école, ça peut être aussi une explication, je pense.
Sans doute. Enfin, je pense aussi, mais donc je reviens. J'insiste sur le fait que l'implication dure pour certaines jusqu'à la rédaction, la mise en texte d'un compte-rendu journalistique qui demande une activité complexe. Enfin, de et alors c'est pas facile. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais c'est donc dans le retour à l'école. Donc c'est pas donc le autant ça peut jouer. Et puis il y a tout ce qu'il y a en amont aussi, parce que avant de sortir du lycée. Il y avait la préparation des guides d'entretien, donc ça aussi c'est un rapport à l'écrit, c'est mais dans un but, voilà, avec une en ayant la possibilité de se projeter dans une activité sociale concrète. Ouais, je pense en effet que ça peut jouer, et que du coup d'autres qui ont bien intériorisé des normes, et parfois qui sont dans la surnorme aussi de l'école, hein, qui sont dans l'hypercorrection du jeu de l'élève, se disent que comme on sort du lycée, c'est plus du travail scolaire. Et ça, c'est le pire. Oui. Ça, c'est... Pour les enseignants, bien sûr. Ouais. Oui, surtout pour les enseignants. Parce que...
Je voulais juste réagir sur le vous parliez du choix du plurilinguisme, et ce qui me semble important là-dedans, c'est effectivement qu'il y a un enjeu qui est fort pour les élèves. Et bon, c'est un constat que moi j'ai pu faire aussi, même avec des plus petits, parce que j'ai travaillé principalement avec des CP, des CE1. Quand on met un enjeu au niveau thématique fort dans une activité, il y a un investissement des élèves dans la tâche scolaire. Et souvent à évacuer tous les enjeux importants, qu'ils soient sociétals ou personnels des activités d'enseignement, on prive certains élèves de s'y impliquer, de s'y investir.
Il y a des choses qui ont été dites, mais moi qui me semble, c'est dans ce qui fait que le projet... d'abord, il y a le projet. Il y a une pédagogie du projet, incontestablement. Ça, c'est un des éléments. Il y a quand même quelque chose auquel je pensais, c'est que très souvent on dit aux jeunes changez et vous aurez des rôles sociaux, hein, alors que là c'est le rôle social qu'on leur fait endosser, même si c'est pour du faux à l'école, parce qu'il y a quand même toujours cette question de l'exercice, hein, parce que là l'école c'est toujours une situation un peu artificielle par rapport, mais faites comme si vous étiez des journalistes, faites comme si vous étiez des sociologues, hein, parce que c'est un peu de ça, ou des sociolinguistes, et allez-y. Donc là le changement dans l'attitude scolaire et dans l'activité a peut-être quelque chose à voir avec le changement dans la posture sociale, certains diraient les pratiques sociales de référence auxquelles on s'adresse, et à mon avis ça fait partie aussi, il y a plusieurs raisons qui font sans doute que des élèves se sont particulièrement investis, mais c'en est une. A contrario, je me disais peut-être aussi que ce qui semble structurer le groupe, c'est moins ce qu'on voit par exemple en collège. Hein, certains parlaient de l'avant du collège. Ce qui structure parfois les différences de groupe, pour ce que j'ai pu en voir un petit peu, je ne vais pas trop m'avancer sur la question, c'est que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu du type les intellos et les nuls. Tandis que là, ce n'est pas les intellos et les nuls, c'est ceux qui veulent s'assimiler. Et ceux qui sont plutôt dans, si j'ai bien compris, hein, oui, dans du plus identitaire.
C'est pas exclusif.
Voilà. Ce qui fait que ceux qui sont sur la trajectoire, etc., ils sont pas dans l'activité intellectuelle surtout, ils sont plutôt dans quelque chose qui relève de la conformité. Hein, et ça a à voir aussi avec ce qu'on dit aussi.
Oui, ça, je crois que c'est important, oui. Hein, oui,
c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec la conformité et pas quelque chose qui a à voir avec une mobilisation intellectuelle. Ou en tout cas, c'est peut-être là où on pourrait mettre, c'est une mobilisation intellectuelle que peut-être, hein, on est dans des, on réfléchit tout haut, comme on dit, hein, peut-être une mobilisation intellectuelle qui ne l'aurait pas possible, parce que peut-être aussi que ça les ramène à l'endroit d'où ils veulent s'échapper aussi en partie. Hein, il y a peut-être aussi cette question-là. Maintenant, une question qui a été évoquée, j'ai envie de réagir un petit peu là-dessus, c'est que on n'est pas dans les murs de l'école et on n'est pas dans les murs de la classe. Néanmoins, pour moi, c'est effectivement éminemment scolaire ce qui s'est passé dans le projet. C'est pas l'espace classe qui fait que c'est scolaire ou pas. On peut être dans l'espace classe et qu'il se passe des choses qui ne sont absolument pas scolaires. C'est le bazar, c'est le chahut, etc. Par exemple, pour faire gros. Et on peut être sur le marché du coin et être dans un cadre d'activité, un cadre de travail construit en référence à l'école, c'était dit d'ailleurs, le point du programme, etc. Donc ça me paraît important aussi. Voilà, mais moi ça m'évoquait aussi une autre chose, un dernier point, pour revenir un petit peu à l'avant, parce que je crois quand même que la question est de... ça se prépare avant, hein, vous disiez tout à l'heure, et je crois que c'est important. Et moi j'avais vu ça aussi un petit peu chez des collégiens, mais juste un petit bout. Hein. J'avais été extrêmement étonné comment de jeunes collégiens refaisaient le coup de « il y a eux et il y a nous ». Il y a eux et il y a nous. Et comment? Et le alors eux, c'est qui? C'est principalement les profs, les jeunes. J'ai peut-être dit quelque part, mais c'est un petit groupe, je crois. Les profs, les jeunes filles intello qui sont bonnes en anglais. Hein, et nous, les nuls, qui sommes principalement des garçons, mais pas exclusivement, qui sommes très mal vus et qui faisons tout pour, etc., etc. Donc les choses se structurent en amont. Et effectivement.
Oui, c'est pour ça que je parlais d'une configuration assez classique hein, de ouais. classe. Enfin, ouais. Ouais. On trouve des.
Ouais. Et qu'effectivement, un des enjeux, si on ramène à l'école, c'est ouais. de faire sortir de ces postures-là un petit peu. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ça ne se cristallise pas là-dedans. Quoi. Mm. Hein,
oui, c'est ça, oui.
J'avais une petite question concernant la présence ou la non-présence d'enseignants bilingues. De la même origine que les élèves dans le lycée. Moi, j'enseigne dans un lycée où nous avons la chance d'avoir des élèves d'horizons très, très divers mm-hmm. et des enseignants qui viennent un peu des mêmes horizons que ces élèves. Mm-hmm. Et je crois que leur présence modifie le rapport à la langue des élèves. Quand un élève, par exemple, se sert de l'arabe, quoi, de l'arabe du tunisien ou de l'algérien pour prendre la parole et détourner le cours ou faire distraction. Le fait que le collègue parle la même langue que les élèves va petit à petit en fait comment dire modifier le rapport à la langue de l'école de ces élèves là parce qu'en fait ce rapport à la langue il est partagé des ouais. deux côtés. Et je me demandais dans votre expérience si vous aviez pu bénéficier quoi de la présence de collègues qui partageaient plusieurs langues avec les élèves.
Oui. Oui. Et alors ça n'a pas été toujours facile, enfin pour eux hein, justement de questionner aussi leur rapport à leur langue. Alors parfois, je dirais que parfois en effet j'ai constaté que ça permettait à certains enseignants de où des élèves n'utilisaient pas justement le langage de la même manière avec des enseignants avec lesquels ils savaient partager avoir une expérience commune. Et puis, alors c'est surtout avec... mais de toute façon, il faut quand même dire que c'est surtout avec l'arabe que, dans ce contexte-là, tout se cristallisait autour de l'arabe. Hein, alors que... Pardon ? Non, il n'y avait pas de turc. Non, mais ça pourrait être le turc. Mais bon, c'est quand même souvent l'arabe, et là, c'était l'arabe. Et alors qu'il y avait beaucoup d'élèves, enfin dans le lycée, hein, descendants d'Italiens, parce qu'à Grenoble, il y a beaucoup de descendants d'Italiens. Et donc il y avait des enseignants aussi, locuteurs de différentes formes d'arabe dialectal, et certains ayant été scolarisés en arabe et d'autres non. Et je dirais que, enfin, selon les générations, selon les rapports qu'ils avaient eux-mêmes construits avec l'arabe et le berbère et l'arabe dans sa forme littéraire et les formes dialectales, et puis tout un tas d'autres facteurs, ça pouvait être très facilitant, comme ça pouvait être un facteur de blocage aussi. Je pense notamment à un enseignant né en Algérie. Scolarisé en français et en arabe littéraire, devenu prof de français, qui ne se reconnaissait pas dans ses élèves. Il avait pas du tout le même vécu à part cette langue arabe qui, pour la plupart d'entre nous, est assez abstraite. Enfin, renvoie à des dans les pratiques réelles, finalement, il n'y a pas beaucoup d'expériences partagées avec les élèves. Et il y avait même une volonté de se différencier, de ne pas être assimilé, en fait, au public stigmatisé de ses élèves. Et c'était très fort. C'était... Et donc, une posture ultra monolingue et normative. Mais dans d'autres cas, et dans la plupart des cas, c'était plutôt un facteur de connivence et de meilleure gestion de cet aspect-là. Enfin, je pense que ça dépend aussi de la dynamique dans les équipes pédagogiques, dans les établissements. Je pense que ça peut être un facteur positif, en effet.